Wow, hein, bon. Place aux jeunes.
Place aux jeunes. Place aux jeunes.
Place aux jeunes.
Place aux jeunes.
Place aux jeunes.
Place aux jeunes.
Place aux jeunes.
Place aux jeunes.
Place aux jeunes.
Place aux jeunes.
Bonjour. Nous sommes Malou, Tao et Tania. Vous écoutez Radio Diwa sur le 107.5 FM sur Di et 101.7 FM sur Luc en Diwa.
Nous continuons notre enquête sur l'ancienne salle d'éducation populaire, ancien cinéma, théâtre, salle des fêtes. Aujourd'hui, nous avons comme invité Monsieur Christian Ray.
Bonjour Monsieur Ray.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous ?
Ça va très bien, je suis particulièrement heureux d'être en votre compagnie cet après-midi.
Est-ce que vous voulez bien vous présenter un petit peu ?
Je m'appelle Christian Ray, je suis retraité de la fonction publique après avoir été responsable des pompiers du secteur pendant une trentaine d'années. J'ai une expérience associative importante depuis la création de la MJC d'Audi dans les années 70 jusqu'à la coprésidence du centre de vacances du Martouré. Je suis fondateur également de l'association Dea Augusta et j'édite la revue Chronique du Diwa, une revue d'histoire locale du territoire. Je participe encore à beaucoup d'autres associations. Parmi mes anciennes activités, j'ai présidé pendant 5 ans le théâtre de Di et du Diwa, actuel théâtre désert. J'ai eu une activité d'enseignant. Enfin, je continue à être dans la dynamique du quotidien. Et depuis l'année dernière, je me suis lancé en politique locale, on va dire. Je suis conseiller municipal de Di et je suis vice-président de la communauté des communes en charge du patrimoine bâti et également de l'installation de la fibre sur le territoire du Diwa.
Pour parler un peu de notre salle des fêtes, est-ce que ce bâtiment il existait déjà avant de devenir une salle municipale ?
Alors le bâtiment qui abrite la salle d'éducation populaire de Luc en Diwa, c'est en fait un bâtiment qui au départ n'était pas un théâtre. C'était des maisons d'habitation, des remises. Et ce bâtiment-là a été donné à la commune de Luc en Diwa par une dame qui s'appelait Mademoiselle Ferenc dans les années 30. Et la municipalité de Luc a décidé de valoriser ce patrimoine en détruisant l'ancien bâti pour y aménager la salle des fêtes que vous connaissez aujourd'hui.
Est-ce que vous savez pourquoi il y a des grands miroirs au mur ?
Ça fait partie du décor intérieur. Votre salle des fêtes est intéressante à plusieurs titres. D'abord parce que c'est un des rares projets de salle d'éducation populaire qui a été créé dans la Drôme et dans la région dans les années 30. Et je pense qu'il faut situer un petit peu les choses dans le contexte. Je sais que dans la semaine, vous avez déjà reçu quelqu'un qui vous a parlé d'éducation populaire. Il faut savoir que le Diwa, depuis la fin du 19e siècle, on va dire jusqu'aux années 30, avait un certain nombre d'hommes politiques locaux qui étaient marqués, on dirait, un petit peu à gauche, qui étaient plutôt socialistes quelque part. Et ces gens qui avaient cette obédience socialiste voulaient aller de l'avant. Croyaient aux vertus de la formation, formation par l'école, formation au travail, etc. Et ils avaient la volonté de dire, apporter le savoir aux gens, c'est une chose, mais il faut aussi surtout leur apprendre à réfléchir et à prendre leur destin en main. C'est un petit peu les fondements de l'éducation populaire, hein, donner à chacun les moyens de réfléchir à sa situation dans la société et à l'évolution de la société en tant que telle. C'est à partir de ce constat que le projet de créer une salle des fêtes, en fait une salle d'éducation populaire, pour reprendre le terme exact à Luc, a été fait. C'est dû d'une part au maire de l'époque, M. Nall, mais également, il faut le rappeler, au député de la circonscription, qui était un de vos voisins, puisqu'il habitait à Poyol, hein, c'était Léon Archimbault, qui a eu une très grande influence aussi. Il était très proche du gouvernement. Il a d'ailleurs été ministre pendant quelques jours des colonies. Et c'est sous son influence aussi que la commune de Luc a pu avoir le budget pour créer cette salle des fêtes.
Est-ce que vous êtes déjà allé dans cette salle ?
Oui, je suis allé dans cette salle à plusieurs reprises. Je l'avais visitée en tant que pompier au titre des commissions de sécurité. Et puis, il y a quelques années, dans la revue Chronique du Diwa, nous avons publié un article consacré au capital disparu des Vaucances. Et à ce titre-là, on avait beaucoup travaillé avec Jacques Planchon, conservateur du musée de Die, sur la capitale Lucus Augusti, un Lucandiwa. L'exposition a été présentée dans un premier temps au musée de Die, et on avait décidé après d'en faire profiter les Lucois. Donc on avait transféré cette exposition dans la salle des fêtes, hein, la salle d'éducation populaire, où elle est restée pendant tout un été et a reçu une très nombreuse affluence. Les gens étaient très intéressés de voir cette expo qui parlait de Luc au temps des Romains.
J'ai vu sur le schéma du livre Luc autrefois qu'il y a écrit « salle des fêtes » sur le bâtiment. Alors qu'en vrai, il y a écrit « salle municipale ». Est-ce qu'à un moment, ça a changé ?
Alors, les appellations, elles changent au fil du temps. Effectivement, au départ, la première délibération du conseil municipal de Luc, elle date de 10 septembre 1932, que le conseil municipal a décidé de créer cette salle. Il y a eu tout un tas de réunions préalables avec le préfet de la Drôme, notamment à l'époque, parce que la dame qui avait fait le don de ce pâté de maison à la commune, elle l'avait donné aux œuvres sociales de la commune de Lucandiwa. C'était le bureau de solidarité, ou on appelle ça les CCAS. Donc ça venait en aide, ce bureau, aux gens qui étaient dans le besoin, hein, qui n'avaient pas beaucoup d'argent ou autre. Enfin, on les aidait un petit peu dans le quotidien. Donc le préfet de la Drôme avait mis une condition à la ville de Luc. Il avait dit d'accord pour que vous transformiez ce bâtiment en salle des fêtes. Par contre, comme ça a été donné pour que ça serve que ça apporte des revenus pour abonder à votre centre d'action sociale, il faut que vous fassiez un règlement qui permettra de maintenir les ressources. Donc le conseil municipal a travaillé sur un règlement qui disait dans quelles conditions serait occupée la salle une fois construite. Mais l'article 2 de ce règlement prévoit que les tarifs de location de la salle, donc l'argent qui rentrerait à la commune quand la salle serait louée pour des bals, pour des concerts, pour des conférences ou autres, serait reversé au centre d'action sociale de la commune de façon à continuer à aider les gens dans le besoin. Ce qui est intéressant de voir, c'est la première délibération qui a été prise par la commune de Luc, parce que, je vais vous la citer, elle est très courte, considérant que l'exécution de ce projet constituera une belle amélioration sociale dont l'utilité est incontestable. Ce projet est approuvé par le conseil municipal qui sollicite de l'État une subvention aussi élevée que possible et s'engage à voter la part de la commune dès que l'État aura bien voulu accorder cette subvention. Donc les élus avaient conscience que dans les années 30, on essayait de plus en plus d'intéresser les citoyens de base. Alors, dans les grandes villes, on parlait essentiellement des ouvriers. Nous, ici, dans le Diwa, on était une zone rurale. On avait peu d'usines ou autres. Par contre, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agriculteurs. Et on se disait qu'il fallait aussi leur donner les moyens de s'exprimer, les moyens de se fédérer en associations professionnelles ou autres, de discuter de leurs problématiques. Ça fait partie des choses qui ont motivé la commune de Luc, sous l'influence quand même d'Archimbaud, qui était quand même très versé dans tout ça, à doter la ville d'une salle qui permette justement de réunir les gens autour des thématiques qui les intéressaient, d'une part, mais également leur permettrait de se distraire en accueillant des petits concerts, voire des petites pièces de théâtre, voire des conférences sur des sujets très variés.
Ça veut dire quoi, fédérer ?
Fédérer, c'est unir, regrouper, unir. Quand les gens ont des thèmes communs, les agriculteurs, par exemple, des années 30, on commence à avoir les engrais et tout, mais on travaille encore avec les chevaux. Mais la mécanisation est en cours. On connaît quand même les tracteurs dans certaines parties ou autres. Donc il y a tout des débats qui se font là-dessus. Et au niveau de l'éducation populaire, pour revenir au sujet essentiel, eh bien, on s'aperçoit qu'il y avait trois grands mouvements qui sont nés à la fin du 19e siècle. Il y avait les gens, on va dire, laïcs, qui voulaient éduquer le peuple et lui donner matière à réfléchir quelque part pour prendre son destin en main. Il y avait les laïcs. Il y a eu un mouvement qui était plus ouvrier révolutionnaire. Mais il y avait également, dans l'éducation populaire, tout un courant religieux, enfin catholique, agricole. Et ce mouvement agricole et catholique était assez présent dans le Diwa.
Ah bon ? Non, je pensais que c'était assez protestant les
protestants en ont fait aussi, mais c'est surtout un mouvement catholique au départ, au niveau national. C'était très progressiste, il fallait aller de l'avant, trouver de nouvelles techniques, etc. Et ces mouvements se sont constitués dès la fin du 19e siècle. Le syndicat agricole Surdit a été créé par M. de Fongallant à la fin du 19e siècle, qui est devenu après président des syndicats agricoles de toute la région sud-est de la France. Donc c'était une famille très très catho à l'époque, mais il s'est intéressé à tous les agriculteurs, quelles que soient leurs convictions religieuses ou pas. Alors si vous voulez, on en revient à la salle d'éducation populaire de Luc. Je vous ai dit, la décision du conseil municipal, elle a été prise au mois de septembre 1932. Et très vite, on est passé à la réalisation de plans et surtout à chiffrer les travaux. Il fallait quand même savoir à combien ça allait revenir et si les finances de la ville de Luc allaient pouvoir supporter cette dépense. Donc les plans, ils ont été fournis gratuitement par un ingénieur qui s'appelle Monsieur Plan, qui était ingénieur à Lyon. Alors je n'ai pas pu conduire les recherches, parce que j'ai des tas de choses en cours, pour savoir si ce monsieur Plan avait des attaches locales dans le Diois.
Oui, parce qu'il y a Jules Plan, en fait.
Ouais, oui, on a eu un maire de Die qui s'est appelé Jules Plan, mais ce n'est pas le même.
Okay.
Mais le monsieur Plan, qui était ingénieur à Lyon, a travaillé gratuitement pour établir la salle de Luc en Diois. Et le jour de l'inauguration, il a été d'ailleurs décoré par les autorités pour son investissement dans ce domaine-là. C'est lui qui a fait les plans. On a les croquis, ils sont encore conservés aux archives municipales de Luc. Et puis, on a le prix initial. Le coût initial estimé de cette salle, c'était 136 500 francs. 136 500 francs de 1932.
Malou a fait le calcul tout à l'heure.
Ça fait combien d'euros ?
272 et quelques. Mais...
Tu as fait comment pour faire ton calcul ? Parce que le chiffre que tu me donnes, je le conteste. Il n'est pas bon. Il y a un site qui s'appelle le site de l'INSEE, hein, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques, qui a mis en place un appareil qui permet de transformer en euros 2020 les francs depuis 1900. Et dans cette transformation, ils tiennent compte de l'inflation, c'est-à-dire l'évolution des prix, des différents changements qu'il y a eu quand on est passé de l'ancien franc au nouveau franc, enfin toutes ces évolutions. Et c'est très simple, on met le prix de l'époque, hein, 1932, on met le montant, 136 500 francs, et on clique dessous pour le convertir en euros. Alors soit en euros de l'année de ton choix, moi je l'ai fait avec 2020, c'est la dernière période qui donne, et ça me donne un coût. On n'est pas loin de 10 millions d'euros, 10,4 millions d'euros 2020. Donc c'était quelque chose de considérable pour l'époque, et c'est l'État finalement qui a pratiquement tout financé, parce que ça n'aurait pas été à la hauteur des possibilités financières de la commune de Luc. Et c'est parce que l'État a financé justement que le 17 décembre 32, le préfet a autorisé la commune à lancer les adjudications, donc à lancer les travaux en quelque sorte, alors que la subvention ne serait accordée qu'au mois de novembre 1933. Donc dès le départ, on savait que même si la subvention tardait à l'accorder clairement, il y avait l'accord de principe et tout allait bien. Et ça, c'était dû à l'intervention du député Archimbault, mais pas seulement du député Archimbault. Les Drômois étaient très présents à l'Assemblée nationale. Archimbault a été ministre un petit peu plus tard pendant quelques jours, parce que les gouvernements à l'époque tournaient vite. Mais on a eu un autre Drômois qui était un ami d'Archimbault, c'était M. Lisbonne, qui était député du sud du département et qui à l'époque était ministre de la Santé. Et c'est d'ailleurs M. Lisbonne qui est venu l'année suivante inaugurer la maison d'éducation populaire de Luc. Donc un déplacement ministériel pour inaugurer un bâtiment à Luc, c'était quelque chose d'intéressant. Il en a profité pour visiter toute la vallée de la Drôme et il a reçu un accueil très fort de la population. La population était là, en nombre, à applaudir, à écouter ses propos et tout. Il y avait une vraie dynamique. Et cette dynamique, elle était d'autant plus importante, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, c'est que Luc avait été sélectionné à un prix national des villages modernes. On sent qu'il y avait déjà à Luc la volonté, c'était depuis l'arrivée du chemin de fer en gros, de se développer, d'aller dans la modernité quelque part.
Mais moi, j'ai lu qu'ils ont installé l'électricité juste après.
Après l'électricité, j'ai publié un fascicule de la revue Dromoise sur l'électrification dans la Drôme avec quelques amis historiens. Et il y a toute une partie, tout un chapitre qu'on consacre justement à l'électrification du Diois et à celle de Luc en particulier. La salle des fêtes a été faite avant que l'électricité ne soit installée à Luc. Ça a été très compliqué d'installer l'électricité dans le Diois, mais je pense que ça pourra faire l'objet d'une prochaine rencontre entre nous pour évoquer ce sujet, si ça vous intéresse.
Et du coup, Luc en Diois était donc une des communes les plus modernes à l'époque, grâce à son chemin de fer, en fait, grâce à l'installation du rail.
L'arrivée du chemin de fer, elle permet un développement économique. Et elle le permet surtout aux gens qui étaient, tout le Diois était comme ça, qui étaient relativement isolés, de se déplacer, d'aller dans les grandes villes ou autres. Et quand on va dans la grande ville à cette époque, quand certains partent, vont à l'école, puisque la République avait quand même donné l'accès à l'éducation, donc ça veut dire que des gens d'ici, de Die, de Châtillon ou autres, ont pu faire des études supérieures. Ces gens-là, ils reviennent au pays, ils sont très attachés. Et ils essayent d'influencer leurs concitoyens pour leur dire hey, « c'est le moment de se remuer un petit peu, de passer à autre chose. On oublie les techniques anciennes et on essaye d'aller de l'avant, de se plonger dans la société. » Donc c'est lié en partie au chemin de fer. C'est surtout lié à l'éducation des gens, à la prise de conscience. Prends-toi en charge, ne te plains pas tout le temps, mais fais tes propres démarches pour faire avancer les choses. Et là, on rejoint la thématique de l'éducation populaire, puisque c'est ça la volonté initiale. Alors, ce qu'il y a de remarquable avec cette salle d'éducation populaire de Luc, c'est qu'on prend une décision en 1932, et un an après, le 11 novembre 1933, les travaux sont déjà réalisés et on peut inaugurer la salle. Alors, je trouve ça assez fabuleux. Je m'occupe, moi, des bâtiments pour la communauté de communes. Et je peux vous dire qu'entre le moment où on pense une idée, le moment où on trouve les subventions, qu'on lance les études pour finaliser le tout, et quand on fait les travaux, ça prend souvent plusieurs années. Là, je vois que ça a été fait en un an. Je trouve ça absolument fabuleux, cette rapidité dans la réalisation. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on a choisi d'inaugurer cette salle communal le 11 novembre. Et le 11 novembre, c'est quand même une date symbolique. Hein, c'est l'armistice de la Grande Guerre. C'est un choix qui a été fait non seulement par la municipalité, mais également par les parlementaires, que ce soit Archimbault ou les autres députés sénateurs de la Drôme, conseillers généraux aussi qui sont venus en nombre, parce que le 11 novembre, c'est une date. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de monde qui va sur les monuments aux morts ce jour-là. Mais à l'époque, c'est toute la population pratiquement qui allait sur les monuments parce que tout le monde avait encore en tête le souvenir d'un membre de la famille, d'un ami, d'une connaissance qui était mort dans ce conflit. Donc c'est une date qui est importante. Et le fait que ce soit M. Lisbonne, ministre de la Santé, qui vienne à Luc, ça a été la fête au village ce jour-là. Hein. On a mis les costumes du dimanche, on a sorti la fanfare municipale, puisque vous aviez une fanfare à Luc à l'époque.
Ça s'appelait comment alors cette fanfare? Vous vous en souvenez, Tao et Malou, le nom de la fanfare?
C'était la lyre lucoise.
Et la lyre lucoise, elle était. Ouais, c'était M. Dozon, le percepteur, qui dirigeait cette fanfare. Et on voit la fanfare qui est en train de jouer. Il y a des trompettes, il y a des tambours, il y a le drapeau de la fanfare. Et puis il y a le ministre, accompagné du maire de Luc, qui passe devant. Et à l'arrière-plan, on voit le préfet de la Drôme et on voit également le député Archimbault.
Et pourquoi on appelle ça la lyre lucoise?
Alors la lyre, c'est un petit instrument qui sert à faire de la musique. Hein. On appelait harmonie, on appelait lyre. Enfin, voilà, c'était le nom qui était en vogue à l'époque. Plutôt que l'appeler fanfare ou autre, lyre, il y avait un côté qui était un petit peu plus poétique, on va dire.
Ah, moi, je voudrais juste préciser pour nos auditrices et auditeurs qu'en fait, ces photos sont en face de... sont affichées dans les rues de Luc en Diois, notamment en face de la salle d'éducation populaire, à côté de la boulangerie. Donc allez les regarder parce qu'elles sont très très belles.
Voilà, et d'ailleurs c'est une excellente initiative que toutes ces photos dans les rues de Luc qui permettent de comprendre l'évolution du village. Il y a un côté touristique, mais il y a surtout un côté éducatif des gens
elles sont
qui est absolument intéressant.
À votre avis, qu'est-ce que ce lieu il pourrait devenir ?
Alors la salle a fonctionné jusqu'en 1999 avec toutes les activités qu'on peut supposer. Hein, ça peut être des conférences, expositions, petites scènes de théâtre. Je ne sais pas ce qu'il y a eu d'autre, hein, n'étant pas lucois. Moi, Luc, j'y venais surtout pour faire la fête, la fête foraine, là, au mois de juillet. J'y viens aussi régulièrement chez des amis. Mais la salle, je l'ai peu fréquentée avant 1999, quand elle fonctionnait. Maintenant, la salle, elle est intéressante parce qu'elle présente une scène qui a de la place pour le public. Le gros problème, c'est qu'elle ne répond plus aux normes de sécurité. Alors, les normes de sécurité, on ne va pas faire le débat là-dessus, mais ça veut dire qu'il faut mettre l'électricité à l'intérieur qui soit conforme aux normes pour éviter tout accident. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des issues de secours qui soient bien dimensionnées pour permettre en cas de problème l'évacuation du public. Ça veut dire qu'il faut vérifier le mobilier, tous les matériaux qui sont employés à l'intérieur. Ça va du revêtement de sol jusqu'à ceux des murs et du plafond, voir s'ils sont incombustibles, hein, s'ils ne risquent pas de brûler et de faire des victimes. Donc il y a tout un travail d'analyse déjà de cette salle qui est fait ou qui est à faire, je ne sais pas. Il faudrait voir ça avec monsieur le maire. Et c'est une fois qu'on a ce bilan, déjà sur l'intérieur du bâtiment, sur les travaux qu'il y aura à faire pour le mettre en conformité. Ça veut dire aussi étudier la structure du bâtiment pour voir si on peut apporter des modifications, si elle est toujours assez résistante, assez solide. Bref, il y a toute une grosse étude à faire pour voir quel est son état général et quelles sont les améliorations qu'on peut y apporter. Et pour apporter des améliorations, il faut avoir effectivement, là je vous rejoins, une idée de ce qu'on souhaite en faire derrière. Moi, j'ai en mémoire que vous avez une super belle salle aussi à Luc, pas très loin d'ailleurs. Hein,
c'est la salle des Vaucances.
C'est le choix qui avait été fait par les municipalités précédentes de dire il y a tellement de travaux à faire dans la salle d'éducation populaire que, allez, on fait une nouvelle salle qui répondra aux besoins actuels. Il n'empêche que ce bâtiment, vous l'avez. Moi, je trouve qu'il a toute sa place dans le village parce qu'il a quand même du caractère. C'est vraiment typique des années 30. Ce bâtiment mériterait d'être comparé avec d'autres bâtiments d'éducation populaire qu'on peut avoir dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, voire ailleurs en France. Il y a eu quelques colloques par le passé qui étaient sur cette thématique, justement, des bâtiments d'éducation populaire, comment ils ont été conçus ou autres, puisqu'ils datent tous à peu près de la même période. Donc, même période, ça veut dire qu'on s'inspire de ce qui a été fait avant, notamment au début du 19e siècle, mais on a des matériaux nouveaux dont l'usage se répand, c'est le béton par exemple. Et puis on est toujours quand même inspiré par l'opéra Garnier pour le décor intérieur. Sauf la taille, on se croirait dans le théâtre d'une grande ville quelque part. Et on est toujours un peu surpris de trouver ça dans un petit village des montagnes drômoises. Donc tout ce qu'on peut conserver, moi je trouve que c'est bien. Mais encore faut-il que ça passe en commission de sécurité, qu'on ne fasse pas prendre de risques. Ça c'est le vrai débat. Et puis, qu'en faire ? Moi, je ne veux pas me prononcer dessus, parce que je trouve que la réponse, elle appartient aux Lucois, et notamment au conseil municipal de Luc, avec ses habitants. C'est à eux de réfléchir à ça, qu'en faire et tout. Et quand on a réfléchi à quoi en faire, il faut voir après quels sont les financements qui sont possibles auprès des partenaires institutionnels, que sont le département, la région, l'État. Et c'est quand on a à la fois la définition du projet et puis les possibilités ou pas d'aide financière qu'on peut confirmer ou restructurer le projet pour arriver à faire quelque chose en mesure d'aboutir. Parce que c'est un patrimoine aussi. Hein. Le patrimoine, ce n'est pas seulement les Romains, les Vaucances ou autres. Du patrimoine, c'est quelque chose de vivant. C'est comme la culture, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, qui évolue dans le temps, qui témoigne du passé de nos sociétés. Et qui va aussi vers l'avenir. Moi, je considère que c'est un patrimoine architectural, mais c'est aussi un patrimoine immatériel, quelque part, parce qu'il témoigne de l'éducation populaire, justement. Là, on est dans l'immatériel un peu, mais quand même dans une démarche qui est extrêmement importante pour comprendre l'évolution de notre société. L'éducation populaire, on n'y pense pas toujours, mais au départ, c'est quelque chose de relativement spontané, on va dire, de la part du peuple, mais du peuple avec un grand P. Hein. Ça a été quand même récupéré au fil du temps par les gouvernements. Il faut en être conscient. Quand on voit que les gens commencent à se prendre en compte, comme ça, dans l'éducation populaire, qui commencent à réfléchir, à s'organiser ou autre, eh bien, on dit, oula, ça peut être un petit peu dangereux, donc on va essayer de cadrer tout ça. Et le cadrage qui s'est fait, c'est la réglementation, par exemple, des maisons de jeunes et de la culture. C'est l'organisation, dans les années 60, de ce qu'on appelait les 1000 clubs, où on implantait l'État fournissait des bâtiments préfabriqués qu'on pouvait implanter, qui servaient de MJC en quelque sorte. Hein. Il y avait des opérations comme ça qui étaient faites. Mais l'éducation populaire, c'est elle qui a permis aussi la création des comités d'entreprise, etc. Donc, d'un mouvement populaire au départ, il y a des choses qui en ont émergé, qui sont à présent normées, réglementées par la loi, mais qui ont un aspect positif. Les comités d'entreprise, les comités d'établissement, c'est quelque chose de positif. Il faut penser que beaucoup de ces comités ont permis à des gamins de partir, par exemple, en colonie de vacances. Hein, et tout ça, c'est quand même issu de ce qu'on appelle l'éducation populaire.
Thierry, en fait, qui est venu nous parler d'éducation populaire mercredi, en fait, lui s'interrogeait, et puis on s'interroge aussi, sur le fait que la salle d'éducation populaire a très vite perdu son nom de salle d'éducation populaire. Est-ce que vous auriez une explication à cela ?
Pas vraiment. 33, date d'inauguration, on est quasiment à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, elle montre quand même une vraie rupture, j'allais dire, entre un ancien monde et un nouveau monde qui va émerger. Et le constat qu'on peut faire, c'est que pendant la période de guerre, qui a quand même duré de 39 à 45, on n'avait pas l'esprit à faire la fête ni rien. Hein, en temps de guerre, généralement, on a d'autres préoccupations. Donc là, il y a un certain déclin de ce genre d'activité culturelle au sens large. On est très vigilant aussi, même si le DIWA a bien résisté, où les gens ont résisté aux Allemands, aux nazis, au régime de Pétain, eh bien, ils se montraient quand même prudents et les activités intellectuelles ont préféré ne pas les afficher au grand jour. Donc, il y a un certain déclin déjà de l'utilisation qui se fait à cette période-là. Et puis, après 1945, quand on sort de la guerre, le pays, quand même, il est appauvri. Et le fait que le pays soit appauvri, il y a des zones qui sont complètement reconstruites, hein, notamment dans l'est de la France. Il faut reconstruire toute l'économie. Donc les gens se remettent après au travail pour reconstituer l'économie. Et puis, il faut penser que l'Europe, d'une façon générale, la France en particulier, ont beaucoup été aidés après la Seconde Guerre mondiale pour se reconstruire par les Américains au travers de ce qu'on appelait le plan Marshall. Et le plan Marshall, il a certes aidé à remonter l'économie de l'Europe pour permettre aux Européens de retrouver leur indépendance et des conditions de vie décentes, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Jusque dans les années 60, il y a certains aliments qui étaient en quantité limitée. Il y a certains produits qu'on ne trouvait pas encore sur le marché. Il a fallu que tout ça se remette en œuvre. Donc, en même temps qu'il y a eu cette remise en ordre du pays, il y a eu l'apparition de nouvelles techniques qui se sont très fortement implantées du fait justement des Américains. La mécanisation, par exemple, de l'agriculture, avec les tracteurs qui sont arrivés en masse avec le plan Marshall. Donc, on a révolutionné un petit peu le monde agricole. Il y avait moins besoin de travailleurs de la terre, puisqu'il y avait davantage de mécanisation. C'est un des exemples. Mais on a surtout eu, vers cette époque, une très très forte influence de la culture américaine, quelque part. Du coup, les petites salles de spectacle du village, qu'on avait avant-guerre, qui fonctionnaient bien parce qu'on était en autarcie, on était un petit peu entre nous, il fallait se débrouiller, eh bien, il y a tout cet apport et toute cette renaissance du pays qui fait qu'on change de société, on change de monde, quelque part, et que ce qu'on aimait faire avant la guerre, eh ben, on n'aime plus le faire après ou on le fait dans des conditions différentes. L'éducation populaire, elle passe un peu au second plan. On préfère tourner la page en se tournant davantage vers les loisirs. On n'est encore pas dans la société de loisirs, mais progressivement, on en prend le chemin. Il y a des émissions radio, il y a des choses comme ça qui arrivent. Les disques hein, qui se déversent avec les 45 tours, les choses comme ça. Le cinéma ou autre. Tout ça fait que la salle, elle change de vocation. Elle devient plus salle des fêtes. Et une salle des fêtes, c'est avant tout fait pour faire des balles, pour des réunions plutôt conviviales ou autres, plutôt que des choses destinées à la culture et à la réflexion. Mais salle des fêtes, salle municipale ou autre, voilà, ça montre l'évolution des choses. Et ça montre qu'un bâtiment, c'est quelque chose de vivant aussi. Un bâtiment, on le construit à une époque pour permettre de faire face à certains besoins. Et puis les besoins changent au fil du temps, donc on réaménage. Et puis de ce côté-là, Luc, je trouve que vous avez une chance formidable parce qu'il y a beaucoup de bâtiments intéressants. À côté, là, il y avait les bains-douches, là, si j'ai bonne mémoire, sur la place.
La salle des bains.
La salle des bains, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout ce petit patrimoine.
Les lavoirs aussi.
Qui est souvent oublié, les lavoirs, etc. C'est vraiment des choses qui sont à mettre en valeur.
Le moulin.
Ça intéresse tout le monde, ça. Oui, mais il y a des sujets. Là, on parle de bâtiments, mais c'est pareil pour nos paysages. Vous avez la chance, à Luc, d'avoir le CLAPS. Vous avez la chance d'avoir des forêts autour. Mais l'histoire du CLAPS, par exemple, l'histoire des forêts, la forêt n'est pas... Elle est récente, la forêt autour de Luc. Hein, c'est la fin du 19e siècle, le début du 20e. Avant, les paysages étaient complètement dégarnis. Il y avait quasiment pas d'arbres. Et là, on connaît les raisons pour lesquelles il n'y avait pas d'arbres. Ça pourrait faire, ça aussi, je vous le souffle, une émission. Pourquoi on a des forêts de pins noirs autour de Luc aujourd'hui ?
On en avait déjà parlé dans un atelier jeune, en fait. On en a déjà parlé.
Là, on a beaucoup de documentation là-dessus. Et on a des photos plaques de verre du 19e siècle qui sont absolument extraordinaires. Et j'ai en mémoire, notamment, une vue générale de Luc qui doit être prise depuis les hauteurs de Poyol, où on voit tout le village, on voit la voie de chemin de fer qui arrive et tout, et on voit que les montagnes sont complètement dégarnies. Donc c'est des points de départ pour réfléchir à comment on a fait pour planter la forêt, que l'État devienne propriétaire des terrains, etc. Toutes les démarches qu'il y a eu. Est-ce que la population a adhéré, a pas adhéré, les réticences qu'il y a eu, pourquoi il y a eu des réticences. Et ça amène à comprendre au-delà de ça que si on a exploité tout le bois des forêts anciennes du Moyen-Âge, si on a cultivé beaucoup de champs, c'est parce que la population du Diwa était beaucoup plus importante à l'époque que maintenant. Il ne faut pas oublier qu'à la fin du 19e siècle, le Diwa actuel, c'est 30 et quelques mille habitants, alors qu'on n'est que 12 000 aujourd'hui.
Ben, merci pour cette interview. Au revoir.
Au revoir.
Au plaisir de vous revoir pour évoquer d'autres sujets de l'histoire de Luc et du Diwa en général. Merci pour votre accueil.
C'était le premier épisode de cette nouvelle série d'émissions Place aux Jeunes, dédiée, vous l'avez compris, à la salle municipale de Luc-en-Diwa, parfois appelée cinéma, parfois salle d'éducation populaire. Retrouvez la suite très bientôt sur notre antenne et évidemment en podcast sur le www.rdwa.fr. Oh,